des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Bonjour à tous, merci de rejoindre sur Bâti Radio notre émission des villes et des hommes. Sachez qu'aujourd'hui, notre pays compte plus de 66 millions d'habitants et selon un récent rapport de l'INSEE, les villes, leurs petites couronnes et grandes couronnes sont de plus en plus plébiscitées par les Français. Alors, depuis 2011, cette croissance de la population des villes a atteint 1,1% par an dans la zone urbaine de Lyon, 1,5% à Toulouse et à Nantes, 1,6% à Bordeaux et à Montpellier, 1,4% à Rennes. Tout porte donc à croire que nous apprécions la ville urbaine, mais les villes d'aujourd'hui et de demain sont-elles et seront-elles à la hauteur de nos attentes? Voilà, dans ce contexte en plus actuel d'une économie bas carbone, il y en a un qui a vraiment la cote, c'est le bois. Est-il la bonne fée de la construction? Suffit-il de construire en bois pour construire durable? Le bois, entre utopie et principe de réalité, nous consacrerons deux émissions au bois avec un premier épisode sur la route qui mène de la forêt au sillage. Le bois, vous l'avez compris, vaste sujet que nous allons développer avec la pièce maîtresse de cette émission, Valérie David, directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage. Bonjour Valérie.
Bonjour Billy.
Deux émissions.
Oui,
c'est
deux
énorme.
Émissions, on aurait pu faire même plus.
Oui, parce que le sujet est vaste. Valérie, avant de démarrer, je voudrais que vous nous présentiez vos invités.
Alors, j'ai le grand plaisir d'inviter Laurent Piermont. Laurent qui est ingénieur agronome, expert, docteur en écologie et expert forestier et carbone. Il a été longtemps le président de la société forestière de la Caisse des dépôts et je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Laurent.
Bonjour Valérie, bonjour Billy.
Bonjour et bienvenue. Et puis il y a un autre invité qui vient d'un petit peu plus loin.
Alors nous accueillons Gilles Dana qui est notre expert en traçabilité et qui nous vient du groupe suisse Product DNA qui s'est fait connaître depuis plusieurs décennies et qui a vraiment été un pionnier de la traçabilité des textiles, de la traçabilité des matériaux en Europe.
Donc bonjour, avec lui.
Bonjour Valérie, Gilles. Bonjour Laurent, bonjour Billy.
On va avec vous suivre dans ce premier contexte d'émission puisque le bois c'est une longue histoire et nous avons décidé de démarrer aujourd'hui entre l'arbre et le sillage. Pour être plus concret, on va de l'arbre à la planche.
Des villes et des hommes, le sujet du jour.
Alors Valérie, ce sujet du jour, il est très vaste, hein, de la forêt au sillage. Je voudrais que vous nous mettiez un peu dans le contexte.
Alors, on va donc planter le décor,
si je peux dire.
Alors, l'arbre, il ne faut quand même pas oublier qu'il c'est un ancêtre vénérable. Hein. Les premiers arbres apparaissent à peu près il y a 400 millions d'années. Ils sont apparentés aux conifères, ceux qui apparaissent à cette époque-là. La couverture forestière mondiale, c'est plus de 31% de la surface terrestre. Et c'est surtout le deuxième puits de carbone derrière les océans. On recense plus de 40 000 espèces d'arbres, essences d'arbres, dans le monde. Et en Europe, si je resserre un peu la focale, c'est près de 160 millions d'hectares de forêts. Alors, contrairement à une idée reçue, nous ne sommes pas le pays le plus boisé. Hein, le temps s'en faut. C'est la Suède qui est le pays le plus boisé en Europe, avec 28 millions d'hectares. Et nous arrivons quatrième position, la France, avec 17 millions d'hectares. Notre surface forestière en France est composée à plus de 67%, presque 70% de feuillus, et donc le reste en résineux. Chez les feuillus, Billy, c'est le chêne qui tient la cote avec 34%. Et pour les résineux, nous avons dans l'équipe des résineux le sapin épicéa à près de 28%. Alors, pourquoi aujourd'hui l'arbre a-t-il la cote? Il a la cote pour des raisons climatiques, notamment, on y reviendra avec nos experts en écologie. Il a la cote aussi pour des raisons de biodiversité et pour des raisons de construction, puisque nous sommes en pleine relecture contemporaine de ce matériau ancien qu'est le bois, matériau ancestral s'il en est, qui est en train de revenir en force, seul ou accompagné de matériaux nouveaux.
Donc ça fait un bon mélange.
Oui.
Avec la technologie d'aujourd'hui, avec ce qu'on a appris, est-ce qu'on peut dire, Valérie, qu'on peut mélanger bois et béton, par exemple ?
On peut mélanger bois et béton, on peut mélanger bois et acier, on peut mélanger bois et terre crue. On peut faire beaucoup de choses avec le bois, voire construire en bois seul, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution, on le verra dans la seconde émission.
Il y a toujours un petit peu de suspicion quand même hein, sur le bois.
Pas de la suspicion, plutôt, disons, un prêt-à-penser sur le sujet qui convient quand même de moduler pour en faire un des matériaux qui rentre dans l'éventail des matériaux de la construction durable.
Je pense qu'avec Laurent Piermont, qui est un de vos invités, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de nos réserves de bois, par exemple, et nous dire comment elles sont exploitées.
Alors, Laurent, en tant que spécialiste du sujet depuis de nombreuses décennies, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là ?
Bon, je crois que la clé de voûte du dispositif, la clé de voûte de toute la conversation qu'on peut avoir sur la forêt, c'est l'exploitation durable de la forêt. En 1356, ou pardonnez-moi si je me trompe sur la date, l'ordonnance de Brunois a défini le mot exploitation soutenable, c'est-à-dire ne pas prélever plus de bois qu'il ne s'en produit. Et tout ce qu'on pourra dire dans la suite sur la forêt, le bois comme écomatériaux, la biodiversité, etc., repose là-dessus. Ou bien vous avez un stock de bois que vous exploitez et que vous laissez derrière un désert, et c'est une exploitation non durable, et le bois est un très mauvais matériau dans ce cas, ou bien vous replantez au fur et à mesure que vous exploitez, c'est une exploitation durable, et si j'ose dire, c'est parfaitement vertueux et tout va bien. Voilà. Enfin, tout va bien, avec quelques petits détails, quelques gros détails dont on pourra parler plus tard.
Tout petit détail, quand vous dites que ça peut être durable si on replante un arbre, vous nous dites combien de temps ? C'est important.
Alors, la durée de vie d'un individu arbre peut être de plusieurs siècles, comme vous le savez, même jusqu'à 1000 ans. On a certains pins australiens qui vivent 8000 ans. L'exploitation... les arbres français ont une durée de vie un peu moins longue. Les chênes les plus vieux vivent naturellement 200 ou 300 ans. Et on exploite les arbres concrètement entre 30 et 150 ans.
Donc ça veut dire que pour exploiter un arbre, si on le replante, il faut 30 ans.
Là, je parle du peuplier qui va s'exploiter en moins de 20 ans, du pin maritime qui va s'exploiter en 30 à 50 ans. L'exploitabilité de l'arbre est liée à son, au fond, à sa durée de vie en bonne santé. Donc, lorsque vous l'exploitez, l'un des sujets, c'est que vous l'exploitez avant qu'il ne soit vieux. Bon, donc il manque dans une exploitation qui serait industrielle, il manque de vieux arbres.
Donc
il y a un sujet. D'ailleurs, c'est une image qui peut d'ailleurs avoir un sens, y compris pour la société. Donc, l'un des sujets, par exemple, c'est de veiller, lorsque vous exploitez vos arbres adultes, à laisser des arbres vieillir pour le cortège d'insectes, de plantes, de parasites, de pivers et de piques et pêches qui ont besoin de ces vieux arbres pour survivre. Donc là, m'amène à corriger tout de suite ce que j'ai dit précédemment. La clé de voûte, c'est replanter après avoir exploité. Et la deuxième clé de voûte, c'est une exploitation qui se fasse dans le respect de la biodiversité.
C'est vrai que c'est un expert.
Oui, c'est un expert. Et j'attire votre attention, je rebondis sur ce qui a été dit sur les vieux arbres. Dans le cadre de nos métiers, vous savez que nous construisons des infrastructures linéaires. Eh bien, nous n'arrachons pas les arbres sénescents, donc les arbres en train de vieillir. Et même, il nous arrive très souvent de devoir laisser les souches lorsqu'il y a des arbres qui ont été abattus. Parce que des tas d'insectes, tout un cortège effectivement faunistique vient se nourrir de la cellulose en décomposition. Et c'est un milieu naturel très riche en biodiversité.
Ouais. Alors on pourrait se poser la question, Valérie, et on va la poser à Laurent Pierremont. Comment elle est exploitée, notre forêt, à nous, dans notre pays ?
Bon, depuis très longtemps... D'abord sur les forêts royales, puis sur les forêts communales, puis dans le code du code forestier au XIXe siècle, c'est progressivement instauré, ce que j'ai dit, l'obligation de replanter après avoir exploité. Donc, on en déduit tout un tas de dispositifs administratifs. La clé de ces dispositifs, c'est ce que l'on appelle le plan de gestion. Lorsque vous gérez une forêt, vous la gérez dans le respect d'un plan de gestion qui définit l'ensemble des actions que vous allez mettre en œuvre au cours des 20 à 30 prochaines années. Ce plan de gestion est approuvé par l'administration, en l'occurrence par les centres régionaux de la propriété forestière. Donc c'est une activité qui est extrêmement régulée et réglementée. Donc ça, c'est le point numéro un. Et je voudrais signaler que, parce que je crois que c'est un des points à poser directement dans cette conversation, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. Voyez-vous, nous avons une forêt qui est le résultat de siècles d'histoire forestière et qui est fondamentalement adaptée à un climat et à un terrain. Voyez, bon, lorsque vous avez une forêt sur un sol calcaire, un peu frais, un peu à l'ombre, dans le bassin parisien, vous aurez tendance avec du houx et un certain nombre de plantes, vous aurez tendance à y remettre du hêtre. Bon. C'est comme ça que fonctionnent les forestiers. Ils regardent ce qu'ils en appellent la station, ils se disent, c'est plutôt une station favorable au hêtre ou au chêne, etc. Bon. Or, les experts du GIEC, et quand même, je crois que maintenant, il n'y a plus de discussion sur le sujet, nous disent qu'en gros, la forêt française, pour l'essentiel, n'est pas adaptée au climat qui règnera lorsqu'elle sera exploitée. Mmh. Voyez ? Donc aujourd'hui, vous plantez, dans mon exemple, vous plantez un hêtre, et malheureusement, dans la moitié des situations, ce hêtre qui est adapté aujourd'hui au terrain et au climat ne le sera pas quand il aura 80 ans et qu'on voudra l'exploiter. Donc c'est très embêtant. Donc la Valérie. Question de l'adaptation est selon moi, le sujet.
Le sujet. Valérie David.
Alors, Laurent, il y a quelque chose quand même qui est un peu surprenant, parce qu'on connaît, aujourd'hui, on a quand même des modèles Météo France qui nous permettent de savoir à peu près, selon les scénarios optimistes, pessimistes ou médians qu'on choisit, qui nous permettent de savoir à peu près de quel climat on héritera, si je puis dire, même si c'est qu'en fourchette basse, vous voyez, même si on prend le scénario, le médian, prenons le scénario médian. Mm-hmm. Moi, je suis quand même un petit peu surprise qu'on n'oblige pas, finalement, les propriétaires forestiers à prendre en considération ce que la science sait aujourd'hui des essences qu'il faut planter maintenant pour qu'elles puissent survivre aux conséquences du dérèglement climatique. Je vais faire un parallèle. Quand on construit un écoquartier, on prend les scénarios Météo France pour que cet écoquartier, dans 50 ans, puisse traverser les épisodes météorologiques les pires, hein, entre pluie torrentielle et canicule, épisodes qu'on commence à connaître dès maintenant. D'ailleurs, on n'est pas dans le fantasme, malheureusement. Et donc, on ne le ferait pas pour la forêt, alors que c'est l'un des milieux les plus exposés, finalement. L'être vivant, lui, va, si je puis dire, va se prendre les conséquences du dérèglement climatique dans la figure. Donc, je suis un petit peu surprise qu'on l'impose aux bâtisseurs qui vont fabriquer du dur, si je puis dire, et qu'on ne l'impose pas aux spécialistes du vivant qui replantent des arbres. Mmh.
Bon, c'est une question qui contient beaucoup d'éléments de réponse.
Vous avez deux minutes.
Vous avez 4 millions de propriétaires, donc c'est un nombre de personnes complexes à manier. Vous avez quelque chose qu'on appelle la propriété privée, qui fait que la propriété française, sur les 17 millions d'hectares, vous en avez 12,5, 13 qui sont privés. Au passage, je signale que l'étiage de la forêt française a eu lieu en 1800, avec 8 millions d'hectares. Donc, vous voyez, 8 millions, 17 millions. Elle n'a pas arrêté de progresser, sauf dans la guerre de la Première et la Seconde Guerre mondiale, où elle a régressé. Bon, c'est vraiment une question d'incitation, beaucoup de gens considèrent qu'ils ne sont pas là pour produire du bois. Vous voyez, beaucoup de propriétaires forestiers considèrent qu'ils sont là, qu'ils sont propriétaires de leur forêt, voilà. Qu'ils aiment s'y promener, qu'ils aiment y voir les oiseaux. Donc on ne les oblige pas
pas commerce.
Voilà, ils n'en font pas nécessairement commerce. Maintenant, pour un propriétaire qui est engagé, pour un forestier qui est engagé dans la gestion forestière, les questions se posent de façon assez complexe, parce que les scénarios du changement climatique sont très divers. Vous avez une grande fourchette. Alors, comme vous le savez, Valérie, la Société forestière de la Caisse des dépôts a été la première, je crois, en Europe, à adapter l'ensemble des forêts qu'elle gérait au changement climatique. Et vraiment, ça a été un exercice intellectuel très complexe, parce que vous devez adapter vos forêts à tous les scénarios, y compris le scénario dans lequel il n'y a pas de changement climatique. Vous voyez ? Bon. Qu'est-ce que nous avions choisi ? Nous avions choisi des solutions sans regret, en adoptant une réponse au scénario pas de changement, scénario A2, scénario B2, qui était l'ancienne nomenclature du GIEC. Et évidemment, dans les scénarios les pires, c'est-à-dire le bassin parisien se retrouve dans le climat du sud tunisien, eh bien, pas de réponse. C'est-à-dire, c'est perdu, oubliez la forêt, on n'y arrivera pas. Mais une fois que vous avez dit ça, vous devez définir des notions un peu complexes. Par exemple, nous avions défini la notion d'essence de transition. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est un arbre ? Plutôt indigène, parce que, c'est-à-dire plutôt français, parce qu'on a plus de chances qu'il soit au moins adapté au sol, quand même, qui produit du bois, hein, bon, qui résiste au climat actuel, parce que c'est maintenant qu'on le plante, et aux trois scénarios de climat futur. Eh bien, c'est pas si évident que
ça. Est-ce que c'est un peu la roulette russe ?
Eh bien non, on trouve des réponses, mais il faut quand même les chercher. Mmh. Et il faut trouver des réponses qui soient économiquement acceptables, parce que tout ça se passe dans un marché, avec des acheteurs de bois, avec des concurrents, etc. Donc l'exercice n'est pas simple, mais la bonne nouvelle, dans le cas que je connais bien, c'est que nous avons pu lancer l'adaptation des forêts gérées, quand même une bagatelle de près de 300 000 hectares, avec un surcoût extraordinairement modéré, c'est-à-dire un surcoût inférieur au prix d'une assurance. Donc ça marche.
Et ça montre que le coût de la non-action est bien supérieur au coût de l'action.
Bien supérieur, bien sûr.
Alors, ma chère Valérie, on a fait un peu l'état des lieux de cette forêt française. Je voudrais qu'on voit s'il y a des menaces qui pèsent sur la forêt française, et vous êtes tous les bienvenus pour commenter. On va donner la parole à Jean-Philippe Bazot, qui a été contacté par Clément Lebas, qui est journaliste pour Bâti Radio. Jean-Philippe Bazot, on lui a posé la question. Il représente France Douglas et écoutez bien sa réponse.
Bonjour Jean-Philippe Bazot, vous êtes président de France Douglas. Première question assez importante à mes yeux et à nos yeux. On aimerait avoir votre point de vue sur les effets du changement climatique aujourd'hui dans les forêts.
Alors mon point de vue sur les effets du changement climatique, pour moi a priori il est double déjà. Puisque quand on parle de changement climatique, on parle effectivement d'une déperdition très importante de CO2 qui envahit l'atmosphère. Or, le CO2, comme vous le savez, est favorable à la croissance des arbres. Donc, déjà de ce simple aspect, on pourrait penser que le changement climatique est favorable effectivement aux forêts. Toutefois, il y a cet aspect aussi réchauffement climatique davantage, qui lui n'est pas forcément favorable aux forêts dans la mesure où il peut entraîner l'apparition de ravageurs, d'insectes, voire de champignons, de nuisibles d'une façon générale qui peuvent effectivement créer des dommages en forêt.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire avec la forêt ? Est-ce qu'il faut qu'on la laisse vivre ? Est-ce qu'il faut qu'on la jardine ? Ou est-ce qu'il faut qu'on l'exploite pour peut-être la faire revivre, la revigorer ?
Eh bien écoutez, il faut probablement faire les trois. Mais par contre, l'un ne peut pas aller sans l'autre, ou l'une de ces options ne peut pas aller sans les autres. Il faut laisser vivre là où l'empreinte humaine risque d'être nuisible, dans des milieux particulièrement remarquables, sachant que le propriétaire privé, voire même le public, ne peut maintenir de tels espaces si par ailleurs il ne trouve pas de source de revenus en exploitant d'autres parcelles par ailleurs et en faisant payer le CO2, pourquoi pas, et l'oxygène qu'on respire. Laquelle, je vous rappelle, est produite par la forêt, d'une façon générale, entre autres. Donc, si on généralisait ce phénomène d'une forme de véganisme appliqué à la forêt, alors on ne produirait plus de bois, on ne produirait plus d'emplois et on ne produirait plus de richesses dans cette filière forêt-bois, évidemment, et dans l'économie en général. Donc, l'autre option, malgré qu'il faille effectivement conserver des espaces parfaitement naturels, il faut pouvoir conserver ces espaces simplement, effectivement, exploiter la forêt. Et là, il y a, comme vous le dites, deux façons d'exploiter la forêt. Soit on a une exploitation qu'on appellerait douce, qui est effectivement la futaie jardinée, où on laisse la nature choisir elle-même sa propre régénération, c'est-à-dire ses propres essences, mais il faut savoir que l'homme de toute façon intervient dans cette opération puisque à un moment donné il choisit lui-même telle ou telle essence, telle ou telle.
Merci beaucoup pour ces informations Jean-Philippe Bazot, je rappelle que vous êtes président de France Douglas. Merci d'avoir répondu et de nous avoir intéressés à la forêt.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Et le mois moins qu'on puisse dire, Valérie David, c'est que les propos de Jean-Philippe Bazeau sur les menaces vous ont fait un peu réagir.
Oui, alors, j'ai pas l'impression, moi, qu'il y a un bon côté et un mauvais côté au réchauffement climatique. Je pense qu'il y a que des mauvais côtés. j'ai bien compris, évidemment, tout le monde sait que la photosynthèse nécessite du CO2, on est d'accord, mais... Honnêtement, entre les insectes ravageurs qui se multiplient, qui sont importés via des espèces exotiques envahissantes et dont on voit vraiment, enfin, je pense que le terme ravageur est tout à fait justifié, quand on voit le dessèchement très grave de la forêt, dessèchement qui intervient très rapidement, hein, on a des feux de forêt qui arrivent maintenant au mois d'avril ou au mois de mai, quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé au Portugal, je vous parle même pas de l'Australie, évidemment, exactement. Le coût humain, le coût en termes de biodiversité, et je ne vous parle pas du coût en euros ou en dollars, quelle que soit la monnaie, c'est absolument invraisemblable.
C'est une catastrophe.
Se produire. Hein. Quand le monde brûle, enfin, je veux dire, le fameux discours du président Chirac à Johannesburg n'a jamais été aussi autant d'actualité. Donc, je vois vraiment pas comment on peut voir un bon côté, un mauvais côté. Il y a que des mauvais côtés à cette perturbation qui est en train de frapper tous les écosystèmes, tous les êtres vivants, et dont on se demande comment on va pouvoir se relever. Oui.
Vous qui êtes des professionnels, c'est bien de resituer le discours de Jacques Chirac, mais si on le resitue dans le temps, c'est quelques années déjà. Pourquoi personne n'a bougé ?
Mais c'est pas nouveau. Les experts le disent depuis plus de 40 ans qu'il y a encore. La première fois, Laurent, qu'on a parlé de changement climatique, je crois que c'était dans les années 20. Donc de toute façon, certes, ça n'était pas à ce point inscrit dans le quotidien des gens. C'est une fois que le quotidien des gens est totalement bouleversé que les gens réagissent. Mais c'est un phénomène connu scientifiquement depuis des décennies et des décennies. Donc, Laurent,
oui,
une réaction ?
Oui. Oui,
même réaction que Valérie ?
Alors... Oui, même réaction, mais avec les deux points de précision suivants. Enfin, les trois. Premièrement, les groupes professionnels, les groupes humains se mettent en branle lentement. Lorsque, en 2003, nous avons décidé de changer la sylviculture sur les 300 000 hectares, 250 à 300 000 hectares de forêt que nous avions, avec des milliers de propriétaires, il y avait vraiment un sujet de conviction. Genre, nous disait, mais est-ce que c'est bien sérieux ? Est-ce que c'est vrai, monsieur Allègre, etc., etc. Oui, ça va lentement. Il faut, bon, il y a un gros travail. C'est difficile, mais bon, on y arrive. Deuxièmement, et pour préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, dans une certaine limite, on peut adapter nos forêts au changement climatique. Dans une certaine limite. Malheureusement, pas dans n'importe quelle limite. En d'autres termes, comme vous l'avez dit, Valérie, le réchauffement, s'il dépasse les 1,5 degré ou 2 degrés, mettra vraiment en péril la forêt. Mais vraiment, il n'y a rien à faire, ça va brûler. Elle disparaîtra. Et deuxièmement, je voulais souligner un point. C'est que vous entendrez parfois des gens dire « oui, mais de tout temps, la nature s'est adaptée au climat qui a évolué, etc. Bon. » Mais il faut savoir que les espèces peuvent s'adapter dans une certaine mesure. Les chênes évoluent, avancent vers le nord de quelques dizaines de mètres par an. Bon. Les espèces animales vont plus vite, bon, évidemment. Mais les écosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble des relations entre les arbres, les plantes, et les insectes n'évoluent pas. Les espèces évoluent, mais l'ensemble des espèces n'évoluent pas. Donc ça conduit nécessairement à un bouleversement de l'écosystème. Vous voyez ? Nécessairement. Et c'est ça qui est drôlement embêtant. Donc il y a deux trucs embêtants. La chaleur, très très embêtante, et le fait que ce qu'a dit M. Bazeau, mais qui est un les ravageurs, oui, mais il n'y a pas que les ravageurs, il y a les dates de germination, il y a la façon dont les relations entre les arbres, les relations racinaires, les coopérations, etc., tout est bouleversé.
Ce sont les interactions,
en fait. Interactions, et quand je dis bouleversé, je ne veux pas faire de catastrophisme, pour ça c'est bouleversé, mais c'est vraiment profondément modifié par le fait que chacun évolue, réagit à son rythme, mais l'ensemble qui est l'écosystème, l'ensemble de relations instaurées, lui n'est pas capable d'évoluer.
On vous écoute ce matin comme si on nous racontait une histoire ou même l'histoire de France. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors, on va avancer un petit peu. Valérie, si vous êtes d'accord, on a vu un peu les menaces sur la forêt française. On va se poser la question, faut-il laisser vivre, jardiner ou encore exploiter la forêt? Et pour répondre à ces questions, on a été chercher le professeur Alexis Akin, qui est à Chine, hein, on dit. À Chine, oui. Qui est professeur à l'Université Laval au Québec, au Canada. Il est au département des sciences du bois et de la forêt et on le retrouve au micro de Clément Lebas.
Bonjour Alexis Achin, vous êtes professeur à l'Université de Laval à Québec.
Oui, c'est ça, je suis directeur à l'Université Laval du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables.
Et on a quelques questions à vous poser dans le cadre de notre émission des villes et des hommes avec Eiffage. Je voudrais savoir déjà ce que vous pensiez des conséquences que peuvent avoir aujourd'hui le changement climatique sur les forêts.
Et on commence déjà à voir plusieurs conséquences, notamment dans les changements des régimes de perturbation des forêts qui entraînent des pertes de matières ligneuses et même des grandes perturbations aux écosystèmes, qu'on puisse penser là, aux feux en Australie qui ont une ampleur sans précédent, mais aussi les tempêtes que vous avez vécues en France au tournant des années 2000 et aussi en 2009 dans le sud-ouest de la France. Et donc, des changements de perturbations comme ça qui sont assez spectaculaires, mais ce qu'on voit aussi dans nos travaux de recherche, c'est qu'il y a aussi des changements de la croissance des arbres. Et si je pouvais résumer, bien sûr, là, qu'il y a toutes sortes d'effets potentiels de différents stress climatiques. Mais si je pouvais résumer ce qu'on voit dans nos travaux de recherche, c'est que pour les forêts, entre autres les forêts canadiennes, là où on pourrait s'attendre à ce qu'un certain réchauffement climatique accélère la croissance des arbres, c'est assez rare qu'on voit des effets positifs tels qu'on peut se l'attendre. Ce qui arrive, c'est justement qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques qui vont occasionner des stress aux forêts et qui, donc par exemple, un dégel pendant l'hiver suivi d'une période de gel qui va beaucoup influencer la croissance des arbres et qui va l'influencer négativement finalement. Alors, pour l'instant, assez peu d'effets positifs, autrement que quelques effets positifs qui sont assez, je dirais, localisés.
Et j'aimerais quand même avoir l'approche du professeur, votre approche universitaire, Alexis Achin.
Oui, bien en fait, c'est ça. Dans une approche universitaire, on voit là, que bon pour les effets des changements climatiques sur nos forêts et sur les bienfaits ou non d'aménager la forêt, il faut pas considérer ces possibilités-là de manière isolée. Alors, ça demande, dans une approche universitaire, d'utiliser des études qui sont interdisciplinaires, parce que si on se concentre seulement sur l'écosystème forestier, bien sûr que il serait mieux de laisser pousser les forêts puis de les laisser vieillir. Toutefois, lorsque on travaille avec dans une perspective plus large, qui inclut aussi les besoins des sociétés, donc on comprend que l'utilisation du bois peut aussi, en fait, est presque essentiel à relever les défis qui sont rattachés à la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Et pour être capable, pourquoi, en fait, c'est parce que si le bois est le matériau renouvelable par excellence. C'est un matériau qui peut nous permettre à la fois de séquestrer du carbone, mais aussi qui peut nous permettre de substituer se substituer à des matériaux plus polluants. Et donc, pour relever ces grands défis-là, ben, on a besoin d'aménager nos forêts et ce qui implique les récolter. Alors, pour l'approche universitaire, ben, c'est qu'on travaille avec des gens, des spécialistes de tous les domaines, que ça parte de l'ingénierie jusqu'à l'écologie, puis on travaille dans des grandes équipes. Et d'ailleurs, ces grandes équipes-là, on essaie aussi de faire en sorte qu'ils ne sont pas simplement rattachés à un écosystème, mais qu'ils vont travailler outre-Atlantique, là, dans le cas qui nous concerne. Nous, par exemple, on est en train de travailler avec les chercheurs de l'INRAE en France à mettre sur pied un réseau de recherche internationale pour en arriver à aborder ces questions-là d'une manière un petit peu plus générale et être capable de recadrer le problème avec des gens qui ont des perspectives totalement différentes.
Merci beaucoup pour vos réponses, Alexis Achin. Je rappelle que vous êtes professeur de l'Université de Laval au Québec, au Canada.
Je vous en prie.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Merci au professeur que j'avais un petit peu... j'avais mis son nom à l'anglaise, le professeur Alexis Achin. Est-ce qu'on a, ma chère Valérie David, est-ce qu'on a des... pas des leçons, mais des conseils à prendre d'un pays comme le Canada par rapport à ses propos? Eux, les arbres, ils en ont. Ils connaissent la construction. Non, on n'a pas de conseils.
Non, je ne sais pas, je regarde Laurent. Je ne me permettrai pas de dire qu'on a des conseils à donner. Les forêts sont extrêmement différentes. On a des écosystèmes très différents. Vous avez rappelé tout à l'heure que la forêt française, voire européenne, est très morcelée. Là-bas, on est sur des espaces extensifs.
Bon, historiquement, l'Europe a quand même plutôt donné des leçons à l'Amérique
c'est
du
vrai.
Nord. Disons-le, sans polémique, une partie quand même de la prospérité de l'Amérique du Nord a reposé au 19e siècle sur l'exploitation, pour ne pas dire un autre terme, de forêts centenaires, millénaires. Vous voyez, on a d'abord décapitalisé un stock énorme de bois sans le payer. Donc l'exploitation durable est plutôt venue d'Europe. Bon. Mais je ne cherche pas du tout à instaurer une petite polémique qui serait totalement ridicule. Par rapport à ce qu'a dit M. Achin, le choix, je crois qu'il a raison. Il y a évidemment une interaction entre la biodiversité, la nature, les éléments naturels et le changement climatique. C'est-à-dire que la nature est une des la bonne santé de la nature et des écosystèmes est une des réponses au changement climatique. Évidemment, la principale réponse, c'est qu'on soit plus modéré dans nos émissions de CO2 et dans nos modes de vie. Bon, au-delà de ça, il me semble qu'il y a une sorte de triangle vertueux. Ou triangle ou carré vertueux. Bon, premièrement, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, 2 degrés. Au-delà, il n'y a pas, selon moi, de réponse qui tienne la route. Bon. Dans cette limite, grand 1, exploitation durable des forêts. Plantons des arbres, utilisons-les comme écomatériaux.
On revient en 1300 et quelques.
Développons le matériau bois plutôt que le pétrole, le charbon et le gaz. Okay. Séquestrons du CO2 dans des objets en bois, etc. Mais dans une exploitation durable, c'est-à-dire j'exploite, je replante. Premier pilier. Deuxième pilier, le respect de la biodiversité. C'est-à-dire, les forêts ne sont pas des usines à bois. C'est des milieux vivants, c'est des milieux où vivent des espèces naturelles, c'est aussi des milieux pour les paysages, pour les êtres humains, pour la qualité de l'eau, etc. etc. Donc ce n'est pas qu'une usine à bois. Respectons la biodiversité et la qualité. Troisième pilier, l'adaptation au changement climatique. Nous avons un enjeu en France, mais en Europe, mais particulièrement en France, en Europe et en France, qui est de transformer une énorme forêt, vous avez rappelé la surface, Valérie, tout à l'heure, et la forêt française, 17 millions d'hectares, c'est de l'adapter progressivement. Et progressivement, qu'est-ce que ça veut dire? Les chênes qui ont aujourd'hui, disons, les chênes pédonculés. Le chêne pédonculé est très mal adapté au changement climatique. Pas de chance, c'est l'essence principale en France.
Oui.
Bon, le chêne pédonculé, un chêne pédonculé de 30 ans, il n'est pas exploitable. Qu'est-ce qu'on va faire? On le coupe aujourd'hui pour le remplacer par un arbre plus adapté?
Ben non.
Comment on fait? Bon, là, par rapport au chêne, le chêne pédonculé, il y a des réponses qui est, par exemple, de remplacer progressivement dans une parcelle le chêne pédonculé par son voisin, son cousin, qui est le chêne rouvre. Bon, mais ça ne se fait pas en 2 minutes, vous voyez? Parce que vous n'allez pas planter des chênes de 30 ans à la place de ce chêne-là. Bon.
Valérie,
pardon de vous interrompre, puisqu'on parle d'essence, alors je sais qu'on parlera bois, matériaux de construction dans la prochaine émission, mais moi j'ai lu des choses passionnantes sur le chêne liège qui était avant très exploité. Aujourd'hui c'est le Portugal, je crois, qui est le premier producteur, avec le Maroc, premier producteur, et nous mondial. Avions des grandes forêts de chêne liège. Alors j'ai lu que le chêne liège, au-delà du fait qu'il résiste bien aux incendies, puisque c'est le but même de ça, de son écorce en liège, que de protéger l'aubier, donc l'intérieur vivant, mais également c'est un formidable matériau d'isolation phonique et thermique, et il stocke beaucoup plus de carbone en moyenne que les autres essences. Donc la question que je me suis posée un peu je dirais naïvement, je me suis dit, mais on sait d'ores et déjà que ça résiste au changement climatique, ça résiste aux incendies de forêt. On peut s'en servir pour des isolants biosourcés très faibles en carbone, voire neutres en carbone. Et en plus, cet arbre stocke du carbone. Et moi, je vais régulièrement en Méditerranée, je ne vois pas spécialement beaucoup, ici dans le Var, première région de France productrice, mais c'est le genre de questions que je me pose, parce que finalement, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on savait déjà au début du XXe siècle, et sans doute avant, que cet arbre merveilleux était très utile et en plus résistant au ravage du feu.
Alors oui, le chêne-liège fait partie de notre liste dite d'essences de transition, c'est-à-dire des essences qui résistent au climat actuel, au climat futur, qui font du bois et qui font d'autres matériaux et qui sont bien adaptés. Bon, il a quelques limites. La première limite, c'est évidemment que pour l'instant, ça ne se vend pas très bien, le liège. C'est une limite quand même. La deuxième limite, c'est qu'il n'est adapté qu'il est pour l'instant adapté au climat chaud. Parce qu'il faut aussi être adapté au climat actuel, voyez. Sinon, ça ne marche pas. Bon. Et puis, troisièmement, il n'est adapté qu'au sol qu'on appelle des sols acides. Les sols granitiques, sable granitique, etc. Mais c'est des limites qui lui donnent quand même un très grand avenir. Donc oui, Valérie, le chêne-liège fait partie
en tout cas,
des essences de transition.
J'ai trouvé une petite conclusion à ce que vous venez de dire, Laurent. Finalement, le rôle de la forêt vis-à-vis du changement climatique, c'est le concept des trois S. Séquestration du CO2 dans le bois, stockage dans les produits, notamment les produits de construction, et substitution. Substitution d'essences non adaptées par des essences adaptées, et puis peut-être aussi substitution de l'énergie, dans l'énergie, avec le bois énergie versus le gaz naturel, ce qui fait la transition avec notre partie suivante.
Absolument, où on va parler
bois
de
bois construction et bois énergie.
Et bois énergie indissociable, et on va donner la parole encore une fois à un invité, il s'appelle Jean Piveteau, il est président du directoire de la société Piveteau Bois, il est au micro de Clément Lebas.
Bonjour Jean Piveteau, vous êtes président du directoire de la société Piveteau Bois.
Oui.
Alors, vous nous intéressez aujourd'hui dans le cadre de cette émission proposée par FH, parce que on parle du bois 100% français. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les enjeux de celui-ci aujourd'hui?
Oui, bah, il est important pour développer une filière, et notamment la filière de bois française, il est important d'abord d'intégrer le maximum de bois dans la construction. Donc, c'est aujourd'hui, les enjeux ne sont pas de dire c'est 100% bois français. Si la filière française n'est pas vraiment structurée, c'est d'abord parce qu'il n'y avait pas de bois dans la construction. Donc, je pense que les enjeux majeurs sont vraiment de mettre du bois dans la construction. Et du coup, la filière bois va investir pour répondre à la demande. Donc, dans un premier temps, dans l'idée de mettre du bois, ça ne sera peut-être pas forcément que du bois français, mais au moins le marché sera créé. Et après, à nous, acteurs de la filière, à prendre nos responsabilités pour répondre à la demande du marché français.
Et comment on peut expliquer aujourd'hui qu'il y ait si peu de bois dans la construction ?
Parce que le pays a eu une très très forte culture du béton avec des entreprises très très performantes et c'est eux qui ont porté le développement de la construction par le béton. Maintenant, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça a une limite par rapport aux enjeux climatiques, où on a besoin d'avoir des forêts sur nos territoires pour réduire la température, pour attirer les pluies, pour attirer tout ça, et de réduire l'empreinte carbone de construction des bâtiments. Donc maintenant, on est en train de vivre un mouvement sur lesquels j'espère que les majors seront vraiment acteurs pour introduire des matériaux biosourcés dans le bâtiment, et dont le bois est sans doute la réponse la plus évidente.
D'accord. Donc, vous pensez combien de temps il faudrait vraiment qu'on s'implante dans la construction au niveau de la filière bois ?
Si le bois rentre vraiment dans la construction, la filière elle va mettre 2, 3, 4, 5 ans pour répondre à la demande du marché. Mais aujourd'hui, le marché, il existe peu. Il est fourni à sa hauteur. Aujourd'hui, le bois français a pris des parts de marché sur les importations, puisqu'on a baissé de 30 ou 40% les importations du bois dans la construction. Sans augmentation du volume. Mais si le volume qui est demandé de bois augmente, les sieurs continueront de faire les investissements qui se sont faits depuis 3-4 ans sur les produits d'engineering pour répondre à la demande.
Merci beaucoup, Jean Piveteau. Je rappelle que vous êtes président du directoire de la société Piveteau Bois, d'avoir répondu à nos questions. Au moins, vous avez pu nous aiguiller sur l'importance aujourd'hui du bois dans la construction.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Et nous Nous sommes toujours sur Bâti Radio. Premier commentaire, Valérie.
Alors, Monsieur Pifto, enfin, la question ne lui a pas été posée directement, mais on travaille avec lui de manière très étroite et on sait à quel point, pour lui, la partie énergie est directement liée à la partie bois de construction. Mmh. Parce que finalement, 50% de tout ce qui est plaquettes, enfin 50% de l'arbre, donc plaquettes, écorces, sciures, sont valorisés soit directement pour, en cogénération, hein, pour faire à la fois de la chaleur ou de l'électricité, soit pour produire des granulés séchés et pressés. Donc ce qu'on appelle, et on a certainement des gens qui nous écoutent qui ont des poêle à peler, donc ce qu'on appelle des granulés ou des pelés de bois. Et c'est vrai que 50% d'un arbre, quand il est coupé, eh bien, n'est pas exploité en bois de construction. Qu'est-ce qu'on fait du reste ? Eh bien, on fait du bois énergie. Et donc, il faut avoir aussi conscience de la nécessité de maintenir les filières de bois énergie pour rendre la production de bois rentable, puisqu'on associe les deux usages, une partie du bois pour la construction et puis les déchets pour l'énergie.
Ce qui veut dire que l'arbre est incontournable pour l'avenir de demain.
Ben, l'avenir de demain, oui, et d'aujourd'hui aussi.
D'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça me fend le cœur d'être obligé d'accélérer cette émission, mais on a un temps qui se réduit, hein. C'est comme les degrés, hein. Faut pas que ça monte trop. Je voudrais qu'on attaque la dernière partie, pratiquement
est-ce
la dernière partie.
Est-ce que je peux
partie.
Dire un tout petit point
alors,
là-dessus?
Oui,
un
mais alors, point tout là-dessus. Petit.
Tout
hein.
Petit. L'enjeu énorme sur la question de l'utilisation du bois, une fois qu'on a parlé de changement climatique, c'est que traditionnellement, depuis toujours, la demande s'adapte à l'offre en matière de forêt, puisque les arbres qu'on va exploiter demain sont déjà là. Bon, malheureusement, dans un monde mondialisé, avec beaucoup d'échanges, ce qui fait le marché aujourd'hui, c'est la Scandinavie, c'est des résineux de 40 cm de diamètre. Or, la France est d'abord une forêt feuillue. Et on a là une petite contradiction qui est un peu embêtante. Donc je crois qu'il faut profondément continuer à développer l'industrie résineuse française, ce que fait notamment M. Pifto, et que par ailleurs, l'un des grands enjeux, c'est de développer l'utilisation du bois feuillu dans la construction. Et ça, c'est un très grand enjeu.
Mais Valérie, avant qu'on parte sur la traçabilité...
Justement, je pense qu'on va aborder avec la traçabilité un sujet vraiment essentiel qui me tient vraiment à cœur parce qu'avec le retour en force du bois de construction, on a l'impression que le seul fait de vous garantir un appartement ou une construction bois la rend vertueuse. Et on oublie une chose essentielle, c'est d'où vient le bois ? D'où vient ce bois ? Parfois même, comme vous le savez, il a pu être coupé en France, exporté pour être transformé et réimporté. Ou bien, il peut n'avoir subi qu'une toute petite partie de transformation en France. Ou bien venir carrément de l'étranger. Quand on ne demande pas d'où vient le bois, à mon avis, c'est une erreur. On fait la moitié du travail. C'est pour ça que je suis très heureuse d'accueillir Gilles.
Nous aussi. Gilles Dana.
Gilles Dana.
Alors bien sûr que tout ce qui est, je vais descendre à un niveau un peu en dessous de la conversation qui a lieu aujourd'hui, nous nous occupons des filières. Une filière, c'est une série d'étapes hein, qui va d'un arbre à un bâtiment. Et puis on a découvert avec EFAGE une grande volonté de connaître ces filières, de connaître chaque étape, parce que chaque étape amène une valeur très intéressante. Et c'est vrai que dire que c'est du bois français, parfois c'est pas suffisant. Parfois, on a besoin de preuves.
Est-ce que c'est faux quand, à certains moments, quand on dit que c'est du bois français ?
Alors, je ne dirais pas que c'est faux, mais parfois, c'est une croyance. Mm-hmm. Et on dit ça va être du bois français. Un chantier, ça prend du temps. Hein, ça peut prendre 6 mois, 18 mois, 24 mois. Et puis, au bout du compte, on se rend compte que ce qui devait être 80% de bois français, on n'en a que 70 ou que 65. On cherche les raisons. Au moins, on a des preuves. On dit... Voilà, 65% du bois, il est prouvé. On a des traces qu'il vient de ces scieries-là, de ces forêts, de ces régions-là. Et puis le reste, on n'a pas de preuves. Donc c'est en faisant ce travail vraiment de l'inspecteur Colombo, en remontant les filières, qu'on arrive à amener à EFAGE des preuves. Parce qu'on sait que voilà, les Français aiment le bois, les Suisses aussi, on aime tous le bois, c'est une matière naturelle. Et on a besoin de preuves.
Est-ce qu'on pourrait considérer que, comme au niveau de l'alimentation, on pourrait créer des labels, des AOP, je ne sais pas comment elles s'appelleraient.
Ouais.
C'est possible, ça, sur le bois ?
Oui, il en existe déjà. Il en existe déjà au niveau environnemental. Ce qui a été dit tout à l'heure, ça me ça me parle aussi. Je me dis, est-ce que les normes existantes aujourd'hui dans du bois qui s'appelle PEFC ou FSC ne devraient pas prendre en compte l'évolution, ne devraient pas prendre en compte aussi la transition vers le chêne liège ou vers le chêne rouvre. Aujourd'hui, ces labels garantissent ce que Laurent vient de dire, hein, c'est-à-dire je coupe, je replante, je coupe, je replante, mais on devrait avoir des labels maintenant un peu plus intelligents, qui parlent aussi du GIEC, qui parlent aussi des scénarios haut, bas, médian. Donc, nous, en traçabilité, on accumule, on intègre tous ces documents, toutes les preuves de provenance, et puis on fait aussi des recommandations. On dit, ah, mais là, pourquoi tout d'un coup, il y a moins de bois que prévu? Est-ce que c'est un problème de disponibilité? Est-ce que c'est peut-être un problème de prix? Est-ce que c'est un problème de délai? Voilà. Donc, on amène aussi des questions.
Gilles, est-ce que tu pourrais nous parler, est-ce que vous pourriez, excusez-moi Gilles, nous parler de l'étiquette de traçabilité?
Alors,
qui a été conçue avec vous il y a 2 ans maintenant?
Oui, oui. Alors on a conçu ensemble l'étiquette de traçabilité de bois. Cette étiquette, c'est une étiquette qu'on peut appeler grand public. Elle est très facile à comprendre, on y trouve 10 chiffres. On dit d'un bâtiment, voilà, le périmètre de bois qu'on va considérer. On ne va pas considérer tout le bois du bâtiment. On ne va pas considérer, par exemple, les coffrages, parce que les coffrages ne vont pas rester sur le bâtiment. On va considérer un certain périmètre de bois qu'on a défini avec plusieurs experts chez FH. Sur ce périmètre, on va s'interroger quelles sont les sources. Est-ce que c'est des forêts françaises, des forêts européennes, des forêts hors d'Europe? Donc on va avoir des pourcentages. Après, on va parler... Combien il y a de pourcentage de feuillus, combien il y a de pourcentage de résineux. Après, on va donner le chiffre des normes environnementales. Donc avec une dizaine de chiffres, on peut dire, voilà, ce bâtiment qui est emblématique en termes de volume de bois, il y a, je sais pas, 1000 mètres cubes de bois. Sur les 1000 mètres cubes de bois, 90% proviennent de France, parfois même on a la région. Le reste provient d'ailleurs. Et puis on peut dire 100% est à une norme environnementale. On parle aussi de la deuxième transformation. Comme disait Valérie tout à l'heure, on peut avoir du bois français qui va quitter la France pour être transformé en fenêtre.
Et revenir après.
Et revenir. Mmh. Et ça, on va chercher.
Alors ça pose un problème, excusez-moi, oui. Billy, en termes de structuration de la filière et de développement d'emplois locaux. Parce que comme le disait M. Pifto, structurer la filière, ça nécessite d'avoir des majors qui s'intéressent au bois de construction, mais ça nécessite aussi que les majors s'intéressent à la provenance du bois et au lieu où il est transformé. Si on veut créer aussi de l'emploi autour de ces filières, la traçabilité, exiger la traçabilité du bois est sans doute un des moyens simples qui ne coûte pas aux clients, puisque c'est finalement l'entreprise qui va se soucier des circuits de provenance. Et puis, j'ajouterais également un élément, moi, qui m'a beaucoup plu dans votre travail, c'est que finalement, il y a une étiquette grand public, vous l'avez rappelé, mais qu'avec un QR code, on peut avoir accès aux éléments de preuve, donc à des renseignements complémentaires qu'on ne pourrait pas inscrire dans une étiquette, parce que ce ne serait plus une étiquette dans ce cas-là, et finalement permettre d'aller vraiment fouiller dans les éléments de preuve que vous indiquiez avec le nom des forêts. Et moi, ce que j'aime bien dans cette étiquette de traçabilité, je l'avais appelée d'ailleurs de la forêt au chantier, c'est l'idée selon laquelle je vais pouvoir savoir que pour la tour Hyperion à Bordeaux, par exemple, eh bien, il y a des forêts de telle et telle zone en Aquitaine ou de telle et telle zone en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça crédibilise la démarche de développement durable, mais ça rend tangible aussi ce qu'expliquait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on prélève, eh bien, il faut replanter.
Tout à fait. Ouais. Donc, avec l'étiquette bois, il y a un premier élément qui est l'engagement traçabilité, l'engagement transparence de tous les prestataires. Tous les prestataires bois, ils vont s'engager à dévoiler leurs sources. Ça, c'est la première étape. Et puis derrière, on amène en fait, on accumule toutes les sources, elles sont à disposition.
D'accord. Je vais vous donner 3 minutes, ce qui paraît très très court, mais ce qui est très long parce qu'on a déjà explosé notre timing. Je crois qu'on termine cette émission en parlant des enjeux, Valérie, du stockage carbone.
Oui.
Parce que ça aussi, c'est un problème.
Alors, le stockage carbone. Alors, effectivement, on a un peu l'impression que quand on émet des gaz à effet de serre, on essaie un petit peu de réduire à la source. mais pour le reste, c'est pas grave, on compensera, on va planter. Et cette idée un peu simple, voire parfois un peu arrogante, vous voyez, politique de riche, j'émets du gaz à effet de serre, mais de toute façon, je m'en moque un peu parce que je paierai ce qu'il faut pour compenser. Cette idée un peu simple est profondément révoltante. Donc, j'aurais voulu effectivement faire un petit peu le point sur la vérité en matière de stockage carbone et de compensation par la reforestation. Laurent.
Bon, alors, d'abord, court, comme vous l'avez dit,
court, Laurent.
Dans tous les domaines où il y a de la compensation, il ne faut jamais, je pense, prononcer le mot compensation sans dire d'abord éviter, réduire et compenser ce qui reste, ce qu'on n'a pas pu éviter. Deuxièmement, la COP21 est le premier accord mondial dans lequel l'humanité dit « Nous allons essayer de ne pas émettre plus de CO2 que la biosphère ne peut en stocker ». C'est énorme comme Alors aujourd'hui, tout ça repose sur des dispositifs assez compliqués, le protocole de Kyoto qui se termine, l'accord COP21 qui commence. Et pour être rapide, Billy, je voudrais simplement dire qu'en France, aujourd'hui, le dispositif, je crois, de référence, c'est ce que l'on appelle le label bas carbone, qui a été créé par un arrêté de novembre 2018, qui définit un certain nombre de méthodes forestières ou agricoles, et puis il y en aura d'autres dans d'autres domaines, qui permettent de certifier qu'une personne a bel et bien séquestré du carbone dans le respect d'une forêt durable, de la biodiversité et de méthodes qui sont approuvées par la certification. Et avec cela, on obtient un certificat tamponné par le ministère de l'Écologie qui permet à une grande entreprise, j'allais prononcer un nom, qui permet à une grande
entreprise... C'est pas grave, on peut chez nous.
Qui permet à une grande entreprise de dire j'ai compensé à hauteur de 500 000 tonnes, 700 000 tonnes, 800 000 tonnes. Mais à nouveau, comme l'a dit Valérie, partir de la compensation est, selon moi, n'est jamais une bonne solution. Il faut d'abord éviter d'émettre, réduire ses émissions, ce qu'on n'a pas évité, et enfin compenser le solde, comme pour la biodiversité. Éviter, réduire, compenser. Et pas le contraire.
Tout à fait d'accord.
Valérie, grâce à vous, grâce à cette émission, on ne va plus avoir en tête une maison en bois, aussi simplement qu'on l'avait, et on ne va pas regarder un arbre comme on le voyait avant. Cette émission a été dense, le bois est encore au programme, et on se retrouvera le mois prochain parce qu'il y a une deuxième partie.
Alors il y a une partie sur la construction bois, et notamment sur les différentes méthodes constructives. On accueillera notre expert maison, Jacques Bouillot, qui est directeur de la filière sèche chez FH Construction. Et c'est vraiment important d'en parler parce que là aussi, il y a un certain nombre d'idées reçues, il y a un certain nombre de préjugés aussi du public, parce que le bois, ça brûle, donc si j'ai une maison en bois, est-ce que c'est une maison qui va brûler?
Mais ça, c'est les trois petits cochons, on a tous été marqués par cette histoire.
Oui, on a été marqués. Et puis, il y a aussi le défi de la hauteur. Est-ce que si on construit en bois, on peut quand même construire des immeubles relativement hauts? La tour Hyperion, c'est 57 mètres, mais on a pu la faire parce qu'il y avait du béton, le noyau est en béton. Donc, c'est aussi cette question de la mixité des matériaux qui peut nous permettre de relever des défis importants en matière de densité, en matière d'économie d'espace aussi. Hein. Le foncier urbain est rare et cher, donc il faut construire plus haut. Et puis de le tout dans le respect de la biodiversité, dans le respect de l'anticipation des conséquences du dérèglement climatique, comme il a été exposé par nos invités aujourd'hui, que je remercie.
Oui, infiniment d'être là, qui nous ont appris beaucoup de choses. Et Valérie, on est tellement impatients d'avoir la suite. Je n'allais pas dire la fin, hein, de l'épisode. Parce que l'histoire du bois, elle est tellement longue et elle sera là encore, je l'espère, dans plusieurs siècles. On se retrouve sur Bâti Radio avec vous pour Des villes et des hommes, Valérie David, le mois prochain. Merci.
Merci beaucoup, Billy. Merci. Au revoir.
Des villes et des hommes, une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site et l'application Radio Immo.